Allô? Bon, là, ça va mieux comme ça. On a des problèmes avec notre console ultra-moderne.
Richard, il est ultra-moderne lui-même.
Oui, Richard est moderne, mais il a une vieille picouille entre les mains. Pierre-Yves, la vente d'une entreprise à son enfant, là, ça peut sembler simple, là, la deuxième génération, mais ça peut être aussi compliqué sur le plan fiscal.
Et c'est ce qu'on amène depuis plusieurs années. Écoute, c'est une discussion infinie depuis des années. Et là, tu lis ton journal ce matin, puis ça dit... Ah, là, ça va encore reporter le projet de loi qui fait en sorte qu'on pourrait alléger les mesures fiscales là-dessus. Je t'explique un peu. Quand tu vends à un étranger qui n'est pas lié à toi, qui n'est pas ton enfant,
oui.
Disons, si tu fais un gain, tu peux être exonéré pour 892 000 de gains capital et ça, ce ne sera pas imposé. Okay? Ça, c'est quand tu vends à un étranger.
Pourquoi 892 000?
C'est un beau plafond qui était à 750 000 à l'époque puis qui était indexé tranquillement pas vite.
Okay.
On est rendu à 892 000, 218 piastres d'exonération à 50 %. Donc, ça te sauve pas mal d'impôts. Mais la question est, quand tu vends à ton fils ou ta fille ton entreprise, là, dans le cours normal des affaires... Au lieu de te faire un gain en capital qui peut être exonéré, ça te fait un dividende présumé imposable. Puis là,
juste que je comprenne, là, ça veut dire que si je vends à un étranger, c'est plus payant que de vendre à son enfant.
Fiscalement. C'est moins compliqué. Tu n'as pas besoin de mettre en place une structure spéciale de portefeuille pour être capable de transférer sur des générations. Puis bon, mais là, évidemment, on crie au scandale depuis des années. Puis là, on voit dans le journal des témoignages d'entrepreneurs qui disent « Je veux vendre mon entreprise à mon fils, mais regardez comment c'est injuste. » Puis mais pourquoi on a fait ça au départ, cette règle-là pour les personnes liées? C'est parce qu'on voulait pas qu'il y ait des entrepreneurs qui fassent des passe-passe d'actions, puis dans le fond, qui vendent leurs actions à, disons, une autre société détenue par leur conjoint, leur conjointe ou peu importe, et qui fassent en sorte que ce qui se serait versé en dividendes imposables devienne du gain en capital exonéré. T'sais, on voulait pas que le monde magouille. Donc, on a mis une règle. Le problème... C'est quand on est arrivé à la réalité de vendre à ton enfant ton entreprise dans le cours normal des affaires parce que ton enfant est dans l'entreprise, connaît l'entreprise et veut l'acheter à la juste valeur marchande. Et là, tu tombais dans des dédales où c'était injuste. Puis là, je ne tomberai pas dans l'article 84.1, le coût fiscal puis les SPCC, mais juste expliquer que dans le moment, c'est ça le problème. Puis ce qu'on veut faire, c'est un projet de loi qui permet de faire ça, transmettre à son enfant de façon juste, mais que s'assurer que la transaction du transfert aux enfants n'est pas une passe-passe fiscale juste pour économiser de l'impôt, puis que dans le fond, tu gardes un certain contrôle ou bon. Donc, c'est pour ça que c'est complexe. Maintenant, paraîtrait-il qu'il y aurait des enjeux politiques derrière ça, puis c'est pour ça que ça traîne, mais ce qui me fait un peu sourire par contre, l'entrepreneur, quand c'est le temps de dire qu'il paie trop d'impôts, il est allé se plaindre. Mais pendant des années, les entrepreneurs ont vendu leurs entreprises en multipliant ce même gain en capital par un nombre de bénéficiaires dans une fiducie. Et ils ont fait beaucoup d'argent à l'abri de l'impôt à la revente d'entreprise. J'ai jamais vu un entrepreneur aller se battre à Ottawa pour être plus imposé.
Non, ça, c'est personne en général.
Exact.
Maintenant, tu reçois beaucoup de questions sur le patrimoine, les testaments, les héritages.
Ben, premièrement, évidemment, allez voir un notaire, un avocat, peu importe les comptables, vos fiscalistes, parce que c'est un enjeu majeur. Trop de monde attend d'être sur le bord de mourir pour réaliser « Hey, il va y avoir une facture fiscale, puis c'est complexe, qu'est-ce que je laisse à qui? » Puis, présentement, à cause de la COVID, il y a beaucoup de gens qui ont fait leur testament, disons rapidement, qui se sont dit « Hey, ça me réveille, là, je peux mourir de la COVID. » Et donc, la première question à se poser, c'est « Qui vous voulez aider puis à quelle hauteur? » C'est la première étape. Parce qu'après ça, qu'est-ce que tu distribues? C'est une autre affaire. Parce qu'il faut réaliser une chose. Si on n'a pas de conjoint, ou même si on a un conjoint, les enjeux sont importants. Je te donne un exemple. Si tu meurs demain matin, ou si je meurs demain matin, là, tu as ta maison, tes assurances-vie, ton CELI, ton REER, ton régime de retraite, ton RRQ. Il y a des gens qui m'ont dit, écoute, si je meurs, c'est l'autocouple. Là. Dans le fond, que mon conjoint ou ma conjointe devient riche automatiquement. Est-ce qu'il ou elle a besoin de tout ça? Est-ce que je pourrais aider d'autres mondes? Évidemment, il faut en parler avec sa famille, mais disons qu'après ça, tu peux te poser des questions. Exemple, la maison, si tu la vends, le gain en capital est non imposable. Avec la résidence principale, ça ne sera pas un enjeu de savoir qui t'a laisse, ce sera une décision. Mais tes immeubles à revenus, tu peux les rouler au coût fiscal à ton conjoint, donc tu peux retarder, si tu veux, l'imposition. T'es mieux de laisser l'assurance-vie à tes enfants, puis les immeubles à revenus à ton conjoint-conjointe, si tu veux laisser de l'argent à tes enfants. Et la question après ça, c'est de se dire, OK, une fois que j'ai pensé à ces premières affaires-là, quelle est la pondération de tout ça au niveau fiscal? Je te donne un exemple. Tu as une maison pas un chalet. Tu dis, ah, je veux laisser ma maison à ma conjointe ou mon conjoint, puis le chalet à mes enfants. Mais là, le chalet, c'est rendu qu'il vaut 500 000. Puis là, il y a un gain en capital là-dessus. Puis comme la maison est déjà utilisée, l'exemption de résidence principale, ton chalet, il l'est pas. Mais tu dis, moi, j'ai ce chalet-là pour que mes enfants vivent dedans avec leurs petits-enfants puis leurs arrière-petits-enfants. Et donc, tu dois prévoir de l'argent liquide, net d'impôt, pour payer l'impôt là-dessus. C'est comme des gens qui ont une terre. Tu sais, ils vivent sur un domaine. Ils disent, hey, moi, je laisse ce chalet-là à mes enfants. Puis il y a une grande terre qui vient avec, là, avec un beau ruisseau. Puis là, tu dis, attends une minute, là. Quoi? Ta résidence principale, non, le gain n'est pas imposable si tu veux, mais ça se limite aux premiers 50 000 pieds carrés. Tout ce qui dépasse va devenir potentiellement du gain. La personne m'a dit, mais non, je vais laisser ça à mes enfants, je l'ai payé avec ma vie. Là. Ouais, mais quand tu meurs, il y a une disposition présumée de tous tes biens. Donc, ce qui est dans le CELI, évidemment, le gain t'es pas.
Allez voir un professionnel.
Oui.
Parce que sinon, ça devient compliqué. Puis,
Surtout si vous avez des terres semi-agricoles, semi-exploitées, ouais, qui peuvent donner des avantages ou qui peuvent ne pas en donner, dépendant comment vous patentez vos affaires. Mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est compliqué. Puis c'est plate de voir planifier ça, mais pensez-y. C'est encore plus plate quand les gens avant vous l'ont pas planifié.
Oui, puis après, t'es pris pour démêler.
Oui. Surtout quand il a laissé six testaments écrits à la main dans six filières différentes.
Pierre, j'ai fait une ligne ouverte la semaine passée sur les chicanes d'héritage puis de testament.
Ah oui?
Oh boy!
Oui, hein?
Oh!
Je t'ai toujours dit mon truc, hein?
Quoi?
Tu veux mettre la marde dans ta famille, tu dis « Je laisse mes biens à mes héritiers en fonction de leurs besoins. Enter. »
Bye! Bonne fin de semaine. Il est 7h24. Le docteur Horacio Arruda sera avec nous dans les prochaines minutes. On va aller voir ce qui se passe sur la 30, Marc.